Vous êtes doctorante, doctorant ou jeune docteur, vous vous intéressez à l'entrepreneuriat et au concours iPhD, ce podcast est pour vous. Je m'appelle Élodie Chabrol et avec mes invités, nous répondrons à toutes les questions que vous pourriez avoir sur ce concours. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast iPhD. Aujourd'hui, mes invités vont répondre à une question que beaucoup de chercheurs entrepreneurs se posent, comment choisir son rôle dans sa start-up ? Pour y répondre avec moi aujourd'hui, nous avons Mohamed Issaoui. Bonjour Mohamed.
Bonjour Elodie.
Et Philippe Saudemont. Bonjour Philippe.
Bonjour Elodie.
Tous les deux, lauréats iPhD 2021. Alors pour commencer, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, Mohamed et Philippe, nous présenter vos projets ? On commence par Philippe.
Donc moi je porte le projet Ceneos qui développe la technologie Spidermass, donc qui est le fruit de nombreuses années de recherche à l'Université de Lille. Cette technologie, de manière très générale, en fait elle permet d'obtenir une carte d'identité moléculaire de l'échantillon qu'on souhaite analyser, avec comme avantage de ne pas avoir besoin de le préparer et en donnant un résultat quasi instantané, donc contrairement aux méthodes analytiques classiques aujourd'hui. Et donc avec Ceneos, notre objectif sera d'apporter cette technologie au bloc opératoire, d'en faire un dispositif médical qui pourra aider le chirurgien à déterminer s'il reste des cellules tumorales dans l'organisme lors d'opérations de retrait des cancers. Et notre mission sera finalement d'améliorer le soin du cancer en diminuant le nombre de rechutes après une opération chirurgicale, tout en permettant aux hôpitaux de réduire les coûts associés à cette pratique. Le projet est sur le point d'aboutir puisqu'on prévoit de créer Ceneos en janvier 2023.
Ah oui, c'est tout de suite là.
C'est tout de suite.
Super, merci beaucoup. Et toi Mohamed, sur quoi ton projet porte ?
Donc, moi, ce n'est plus un projet, en fait, c'est une start-up qui a été créée il y a un an et demi. Donc, la start-up, elle s'appelle AgroDynalux. C'est une start-up deep tech et qui propose des nouveaux désherbants chimiques et éco-responsables. Et bien oui, la chimie et le respect de l'environnement, ça peut matcher. Donc, on propose une solution qui constitue une vraie alternative aux produits phyto-conventionnels qui sont avérés toxiques pour l'environnement et l'homme. Donc, autrement dit, on propose une solution qui combine les avantages de ces produits chimiques conventionnels et des produits bio, à savoir l'efficacité et le respect de l'environnement.
D'accord, bah c'est deux très beaux projets, enfin un projet et une start-up. La prochaine question, c'est quand est-ce que c'est arrivé, quand est-ce que la création de ces projets, la création de ces start-up, quand est-ce que vous avez décidé de vous lancer ? Est-ce que c'était plutôt en thèse ? Est-ce que c'était après ? Mohamed, c'est arrivé quand ?
En fait, c'est arrivé juste un an après la soutenance de ma thèse de doctorat. Donc, c'était en mi-2019 où j'avais eu cette idée de valoriser mes travaux de recherche ou un projet de création d'entreprise.
Donc, après en postdoc. Et toi, Philippe, c'est arrivé quand tout ça ?
Alors, le projet de création de start-up est arrivé très tôt dans le projet, puisque lors de la phase de maturation, on avait déjà envisagé cette voie de valorisation. Ça s'est fait il y a un certain temps, et ça s'est vraiment concrétisé, moi, sur le poste de porteur de projet et futur CEO, les 6 derniers mois de ma thèse.
D'accord, ok. Donc, fin de thèse, début de postdoc. Tous les deux, est-ce que c'était des sujets sur lesquels vous aviez travaillé en thèse ? Je suppose que oui.
Bah, pour moi, oui, en partie, en fait.
Mm-hmm.
Et moi, pas du tout.
Et toi,
enfin, à part à la fin de ma thèse, à partir du moment où justement ça s'est présenté cette opportunité et que j'ai accepté de prendre le portage du projet, je me suis mis à me former, mais avant ça, non.
D'accord, donc c'est, t'as travaillé sur quoi en thèse ?
Alors en thèse, j'ai travaillé sur une application de ma technologie, non pas sur une partie cancer, mais sur une partie dermocosmétique.
D'accord.
Aller caractériser l'état inflammatoire de la peau dans le cas de développement de produits.
Déjà, quel rôle est-ce que vous avez choisi pour vos startups ? Mohamed, vu que la startup est lancée, quel rôle tu as dedans ?
Donc moi, je suis CEO de la boîte. J'ai décidé ce rôle en fait en tout début en fait juste au stade projet de valorisation et maintenant startup. Je voulais toujours devenir CEO de la boîte. Et comment j'ai décidé en fait, parce que comme tu le savais, moi je faisais de la recherche académique et de l'enseignement. Au début je voulais devenir un statuteur de la fonction publique, mais en 2019 j'ai complètement changé de mentalité et j'ai décidé de faire autre chose, de valoriser mes travaux de recherche et créer et gérer une entreprise.
D'accord.
Donc moi, je suis Libanais et comme tous les Libanais, j'ai envie de réussir dans l'entrepreneuriat, dans le business. En fait, ils sont bien, les Libanais ont une bonne répétition dans le business. Donc, j'ai envie de réussir et créer et gérer une entreprise. Voilà.
D'accord. Et ça n'a pas eu envie plutôt d'avoir un rôle plus scientifique? Tu avais vraiment envie que ce soit ta boîte dès le début? Ça n'a pas fait peur, ça?
Eh ben, dès le début, il fallait poser la question devenir CTO. Si on aime continuer à travailler la technologie, et là, il faut laisser l'ego à côté et devenir CTO. Mais alors, de mon côté, non, j'avais pris
CTO,
la décision.
CTO, c'est quoi déjà?
C'est Chief Technology Officer, donc c'est responsable de la technologie en fait dans la boîte. Mm-hmm. Mais moi, dès le début, non, j'ai décidé de devenir CEO parce que je voulais faire autre chose que la science en fait.
D'accord. Et toi, Philippe?
Alors moi, ça a été un parcours un petit peu plus mouvementé parce que effectivement, je me suis vu dès le début en tant que CEO et donc je portais le projet comme le futur CEO de l'entreprise. Et finalement, plus je me rendais compte de l'ampleur de la tâche et plus je me disais, ok, aujourd'hui, je sais que sur cette partie technique et en tant que CTO, j'arriverai à le faire et je serai tout à fait pertinent et bon là-dedans. Autant j'avais des interrogations sur la partie CEO et donc c'est toujours cette interrogation-là qui m'a fait me poser des questions. Mais là, dans ce cadre-là, en fait, j'ai plusieurs associés et ces associés me voyaient, eux, sur ce poste de CEO et m'ont toujours dit « Non, Philippe, nous, on te voit là, t'es fait pour ça, t'inquiète pas. » Et donc, finalement, voilà, j'ai persévéré. Je pense que j'ai bien fait parce que je me vois très bien aujourd'hui dans ce rôle avec la maturité que j'ai pu prendre depuis ce début de parcours et cette transition. Et je pense que ce sera un très bon choix.
Est-ce que le programme IPHD t'a un peu aidé d'ailleurs à acquérir cette maturité dans ce trajet ou pas? Parce que sur un autre épisode, il y a Émile qui disait que justement lui, c'était le programme qui lui avait permis de se rendre compte en fait que voilà, c'était ça qu'il voulait vraiment faire.
Le programme m'a permis de me rendre compte de ce que ça représentait d'être CEO et m'a permis de me poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment envie d'arrêter la science? Est-ce que j'ai envie de laisser ça de côté à quelqu'un d'autre? Voilà, choisir, c'est aussi renoncer. Donc, je me suis posé ces questions-là et effectivement, je me suis dit, quand j'y réfléchissais, je sais que la science, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Après, j'aime beaucoup voir le projet dans sa globalité avec les autres aspects aussi et ne pas juste me restreindre à ces aspects-là. Donc oui, ça m'a aidé à me poser les bonnes questions, à réfléchir et à aborder ces sujets-là. Ouais.
Eh ben, moi, j'aimerais ajouter quelque chose à propos du programme IPHD. IPHD, en fait, c'est un programme très intéressant pour ceux qui vont lancer et qui ne savent pas encore quel statut auront dans leur future start-up. Et à travers l'accompagnement de Deep Tech Founders et Adobe Talent Management, on s'est posé encore et encore la même question. Est-ce qu'on va devenir CEO ou CTO? Et eux, ils nous donnent toutes les clés, en fait, pour définir notre statut et toutes les motivations et les drivers derrière notre décision, en fait. Et moi, j'ai vu que j'ai fait la bonne décision. J'aime le goût de risque et j'aime prendre les décisions. Donc, je regrette pas ce choix. J'assure ce rôle maintenant.
C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que quand on postule pour le concours IPHD, même si on est lauréat, rien n'est gravé dans le marbre. C'est-à-dire que si on prévoit de rester en science ou d'être CEO, le programme permet d'évoluer et on peut changer d'avis tant que, bien sûr, les associés, etc., avec qui on travaille, sont impliqués dans tout ça. Mais en gros, là, vous êtes en train de dire qu'on n'est pas forcément obligé d'arriver, d'être sûr de du rôle
Exactement.
Qu'on va assumer dans sa start-up, quand c'est encore au niveau de projet, en fait, quand on participe à IPHD.
Exactement.
Vous en avez vu, d'ailleurs, parce que je parle d'Emile, mais il y en a beaucoup qui ont changé de rôle comme ça sur les lauréats et lauréates de l'année. Question piège.
Alors moi, je connais Camille, elle était... elle ne savait pas, en fait. Camille, elle ne savait pas, mais maintenant, je pense qu'elle a fait son choix. Maintenant, elle a fait son choix,
d'accord.
Oui. Je pense que IPHD l'a beaucoup aidée.
Effectivement, je pense qu'avoir des personnes qui arrivent avec une idée et qui repartent avec une autre, il y a effectivement le cas d'Emile, j'en vois pas d'autres. Après, des personnes qui arrivent avec des interrogations et que ces interrogations se confirment, ça, effectivement, il y en a eu pas mal.
Ouais.
Tout à fait. Donc, on n'est pas obligé de devenir dans IPHD avec la décision. C'est fait pour ça, en fait. À bien se poser les questions et décider plus tard si on va gérer la boîte ou bien rester dans la science, en fait.
Mais c'est important parce que je pense que l'entrepreneuriat, ça peut faire parfois peur quand on est en thèse ou en début de postdoc. Et du coup, c'est bien aussi de se dire, bah, si on se lance dans l'aventure, tant que c'est pas, en gros, la startup n'est pas créée, on peut être suivi, on peut comprendre quels sont les enjeux et du coup, soit être encore plus sûr de son choix ou au contraire, finalement changer d'idée ou arriver avec des questionnements et puis finalement à faire le bon choix. Est-ce que justement vous avez peut-être des conseils pour les gens qui se lancent, donc que ce soit sur choisir son rôle ou en général l'expérience que vous avez vécue?
Alors moi je dirais il faut oser, il faut pas hésiter et surtout au début faites-vous accompagner. Ça c'est très important, en fait, faites-vous accompagner. Et toujours, il faut poser ces questions-là. Quel statut aurez-vous dans votre future startup? Et n'ayez pas peur, hein, vous serez toujours gagnant, que ce soit en tant que CEO ou bien CTO ou bien autre chose, vous serez toujours gagnant. Et c'est une très belle aventure à ne pas rater.
Philippe?
Oui, je vais dans le même sens que Mohamed. C'est une aventure incroyable. Moi, j'aime beaucoup les challenges. Je pense que c'est un de mes moteurs. Et l'entrepreneuriat, c'est du challenge tous les jours. Donc, c'est ça qui est génial. Par rapport plus spécifiquement à cette question de rôle, je dirais qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à discuter avec ses associés, avec d'autres personnes. Notamment, moi, il y a des choses qui m'ont pas mal permis d'avancer. Ça a été aussi de sortir de mon premier cercle de personnes qui m'accompagnaient, notamment avec le réseau Entreprendre. J'ai commencé le parcours du réseau Entreprendre. Ça m'a permis de rencontrer d'autres entrepreneurs qui n'étaient pas directement des personnes de l'incubateur, qui connaissaient mon projet, ce genre de choses. Et donc, avoir des avis complètement différents aussi, ça m'a beaucoup aidé à aussi peaufiner quel rôle je voyais pour moi, quel rôle je voyais pour la première personne que j'allais recruter. Et ça a été super intéressant.
D'accord. Ouais. Et à partir de quel moment, en fait, vous commencez à réfléchir à ces rôles dès le début?
Oui, il faut penser au rôle, en fait, dès le début du projet. Et c'est tout à fait, en fait, l'accompagnement du PhD qui nous aide, qui nous a aidé à faire ce choix-là, à faire cette décision. Et quand je rejoins Philippe dans ses paroles, il faut pas hésiter à discuter avec les gens, profiter des expériences des entrepreneurs ou bien des... Moi, j'aime bien ce terme, en fait, des science-preneurs, des docteurs ou bien des doctorants qui se lancent dans l'aventure. Il faut parler de votre projet et discuter avec des gens pour bien décider.
Merci en tout cas à vous deux pour ce retour d'expérience. Est-ce que vous avez peut-être une dernière chose à dire à nos auditeurs et nos auditrices avant qu'on termine ce podcast?
Oui. Alors moi, je dirais, on est bien accompagné dans l'écosystème en France. C'est un très beau écosystème. Il y a beaucoup de structures d'accompagnement, beaucoup de programmes. N'ayez pas peur et osez foncer. Allez-y.
Super.
Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire par rapport à Mohamed. Oser, je pense que c'est quelque chose qui ressort beaucoup de la direction BPI. Oser entreprendre, c'est vrai qu'il n'a jamais été aussi peu risqué d'entreprendre, je pense. Aujourd'hui, quand on vient de la science et qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il existe plein de structures d'accompagnement qui nous aident à sauter le pas. Et je pense que beaucoup de scientifiques ont en eux une âme d'entrepreneur parce que ça fait partie justement du boulot de scientifique, d'aller chercher, de résoudre des problèmes, de toujours pousser ses limites, etc. Et je pense que ça, c'est fondamental. Les scientifiques qui se lancent dans l'entrepreneuriat ont une résilience dingue et ça en fait des super qualités en vrai pour jamais lâcher et aller au bout. Donc voilà, ne pas se dire je suis un scientifique, je ne suis pas fait pour ça. Il faut toujours essayer et puis au pire, au passage, on fera qu'apprendre plein de choses et c'est déjà une réussite.
Ouais. Mais en gros, oser et bien s'entourer. Je crois que c'est les deux conseils qu'on retire de ce que vous dites. Ouais.
C'est ça.
Super. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous deux pour vos retours d'expérience et vos conseils. On va mettre vos liens LinkedIn, etc. en description. Comme ça, les gens peuvent vous contacter si vous ont des questions à vous poser pour continuer cette discussion. Super. Bah, merci à vous deux. À bientôt.
Merci.
Au revoir.
À bientôt.
Voilà, ça y est, c'est terminé pour cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. C'était un podcast Beyond Research pour BPI France. À bientôt !